Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Du mois de décembre 1979 au mois d'avril 80, le Centre Pompidou consacrait une grande rétrospective à Salvador Dali qui attira sur 4 mois plus de 800 000 spectateurs. L'émission qui va suivre fut enregistrée à Beaubourg au moment de cette exposition. Il s'agissait d'un portrait de Salvador Dali sous la forme d'un débat en public pour lequel José Pierre avait réuni 6 personnalités qui, à des titres très divers et sous des angles différents, proposaient de Dali leur vision, leur version, pourrait-on même dire. En 1980, la santé de Salvador Dali, qui devait disparaître 9 ans plus tard, déclinait déjà sérieusement et l'essentiel de sa production artistique était depuis longtemps derrière lui. Depuis longtemps aussi, son œuvre avait été comme reléguée à l'arrière-plan d'un personnage médiatique, agent publicitaire de lui-même, qui, entre dupitrerie et élucubration, s'était fait le thuriféraire de Franco. Mais comment prendre au sérieux ou au tragique les paroles et les actes d'un tel énergumène? Si cette question parcourait le débat que nous allons entendre, celle sur laquelle planchaient les intervenants était au fond celle-ci. Qu'est-ce que Dali ? Dali, c'est-à-dire l'œuvre picturale et poétique avant tout, mais aussi Salvador Dali lui-même, du surréalisme au chocolat Lanvin. Débat, ou plus exactement, suite d'exposés, contradictoires mais paisibles, qui n'en devenaient que plus passionnantes quand, sur sa fin, elle tournait en un très très vif affrontement. À quelques décennies de distance, ce que nous allons entendre est d'autant plus intéressant pour nous. Nous, qui connaissons la suite de l'histoire de l'art, de celle des médias et de l'histoire tout court. Portrait débat de Salvador Dali, un documentaire du vendredi proposé par José Pierre, enregistré au mois de février 1980. Première diffusion, le 27 février 1981, sur France Culture.
L'unique différence, et c'est une différence importante, mais minime quand même, l'unique différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou. Bonjour. La conscience de mon génie se produit subitement. Au début, j'ai joué à faire le génie, à paraître un génie, peut-être 20 ans, et je le faisais uniquement pour épater les journalistes ou les gens comme vous, les gens qui venaient m'interviewer, etc. Alors, je n'y croyais pas du tout, je le faisais uniquement comme un jeu. C'est pour ça que j'ai dit dernièrement, attention à jouer au génie, parce qu'on risque de le devenir. Salvador Dali, qui est votre humble serviteur. Maintenant, au point de vue dimension, vraiment, si on avait un maître de Dieu, c'est le maximum qu'on peut lui accorder. Alors moi, je peux parfaitement me permettre de faire Dieu en 5 minutes. Le surréalisme, c'est moi.
Maintenant, je vais donc passer la parole à José Pierre, qui est chargé de recherche au CNRS, historien d'art et écrivain, et qui a eu la gentillesse d'accepter pour nous ce soir de diriger ce débat.
J'entre tout de suite dans le vif du sujet. La personne de Salvador Dali est sans aucun doute aujourd'hui la plus controversée du monde artistique. Il y a évidemment la peinture de Dali, qui a quelques admirateurs fervents, peu nombreux. Il y a une immense quantité de gens, en commençant par les abstraits, qui la contestent en presque totalité. Et enfin, il y a les historiens d'art qui, pour la plupart, n'acceptent de considérer comme digne d'attention que la production d'une dizaine d'années au grand maximum, située entre 1928 et 1938. Mais ce n'est pas tout. Il y a ce fait que beaucoup de gens connaissent Dali sans avoir vu une seule de ses peintures, sans avoir lu une seule de ses lignes. Ils le connaissent par la presse, par la télévision, par les médias. Et ce personnage prend évidemment une place d'autant plus importante que depuis 50 ans, comme vous savez, Dali a fait en sorte qu'il ne se passe pas une semaine sans que la presse et les médias n'entendent parler de lui. Et quelquefois, ça se traduit par des interventions, par des manifestations plus ou moins drôles, mais quelquefois aussi par des interventions, en particulier dans le domaine politique, que, pour ma part, mais ce n'est peut-être pas l'avis de tout le monde, je trouve particulièrement haïssable. Pour toutes ces raisons, le personnage de Dali, le personnage public, le personnage privé, ou ce qu'il en montre, l'artiste, le surréaliste, cela impliquait donc un ensemble de points de vue que je me suis efforcé de dégager à partir du moment où j'ai accepté la tâche d'organiser cette rencontre. Je m'empresse de dire toutefois, pour éviter toute confusion, que nous n'avons pas la prétention de constituer un tribunal. Ceci dit, je pense que tous les gens assis à cette table sont tous, d'une façon plus ou moins profonde, attachés, mis en cause, concernés par le personnage de Dali, concernés pour ou contre, ou le plus souvent, je crois, pour et contre. Aussi, vous avez affaire ce soir, je pense, plutôt qu'à des hommes de savoir, à des êtres de passion. Je vous présente maintenant mes invités, de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est-à-dire pour moi, pour vous, c'est l'inverse, ce qui montre la relativité de ces notions. Tout d'abord, André Thirion, qui a participé au mouvement surréaliste très activement, et en particulier de 1928 à 1934, et qui s'est imposé à l'attention par la publication en 1972 chez Lafon d'un recueil de souvenirs, un gros recueil, intitulé « Révolutionnaire sans révolution », avec lequel ce qui s'est imposé, c'est à la fois la richesse, la précision et la qualité de son témoignage. Vient ensuite Félix Labis, dont tout le monde connaît la peinture, une peinture de non-irisme affirmé et d'un érotisme souvent agressif, une peinture parée de couleurs brillantes et froides en même temps. Et ici, j'ouvre une toute petite parenthèse. Je suis particulièrement heureux d'avoir réuni autour de moi ce soir, pour parler de Dali, autant de peintres, trois, que d'écrivains, trois. Je passe maintenant à Claude Gilbert Dubois, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux III et qui est l'auteur de deux petits livres remarquables, l'un paru chez Larousse en 1973 qui s'intitule « Le baroque, profondeur de l'apparence », l'autre paru l'année dernière aux presses universitaires de France sous le titre tout simple « Le maniérisme ». À ma droite maintenant, le second peintre de cette assemblée, Antonio Saura, parisien de longue date, mais surtout un de ceux qui, autour de 1960, ont représenté dans la peinture espagnole le premier éclat de lumière entrant dans le cachot intellectuel et spirituel de l'Espagne franquiste. Antonio Saura, qui fut membre du groupe madrilène El Paso en 1957, et dont la peinture s'est très vite imposée à travers le monde, une peinture expressionniste tourmentée, amère, déchirée, mais aussi souvent sarcastique. Je continue. De Robert Lebel, on ne sait pas assez, et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour le dire, qu'il est l'auteur de récits étranges, souvent inquiétants et qui rendent, à mon avis, un son tout à fait particulier dans la littérature d'aujourd'hui. Récits parmi lesquels les plus admirables, à mon avis, sont « La double vue » et « La Saint-Charlemagne », tous les deux publiés aux éditions du Soleil Noir. Robert Lebel, qui a lui aussi participé au mouvement surréaliste, mais à une autre période que André Thirion, a publié de très nombreux ouvrages, de très nombreuses études sur l'art ancien et moderne. Je citerai un exemple dans chaque cas. Pour la peinture ancienne, Léonard de Vinci ou La fin de l'humilité, réédité récemment. Et enfin, sur Marcel Duchamp en 59, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, Robert Lebel a publié le premier ouvrage consacré à Marcel Duchamp, à une époque où c'était loin d'être la mode pour les playboys de notre intelligentsia de publier des études sur ce très important artiste. Et enfin, le troisième artiste de la soirée, Théo Gerber, le seul, je crois, qui ne soit pas représenté dans les collections du Musée national d'art moderne, ce qui, soit dit en passant, est un scandale, mais passons. Théo Gerber est un artiste suisse d'origine, bien qu'installé à Paris, en France, depuis longtemps. À l'heure actuelle, il vit dans le Luberon. Théo Gerber fait une peinture très haute en couleur, d'un mouvement extrêmement frémissant, tourbillonnaire, et que l'on peut rapprocher, si l'on veut, c'est à ça que ça ressemblerait le plus, de la peinture de Kandinsky à la veille de la guerre de 1914. Je reviens maintenant de l'extrême droite à l'extrême gauche, et je voudrais demander à André Thirion de nous dire quel est le rôle qu'a joué Salvador Dali dans le groupe surréaliste.
Eh bien, vers le mois d'août 1929, le groupe surréaliste a hérité d'un jeune Espagnol, assez bien fait de sa personne, un peu timide, très cultivé, qui était doté de moyens considérables. Il avait un très grand talent pictural, un très grand talent poétique et beaucoup d'humour. L'arrivée de Dali était assez singulière. Il hésitait. Il se taisait beaucoup. Il tombait souvent. Il s'était imposé tout de suite comme co-signataire et comme co-auteur du Chien andalou et par des peintures qui étaient tout à fait nouvelles, non seulement au sein du groupe surréaliste, mais dans ce qu'on pouvait voir par ailleurs. L'apport de Dali s'est d'abord manifesté par sa participation au Chien andalou et par des éléments qui nous ont encore un peu plus éloignés de la gauche traditionnelle. En effet, il suffit de lire la petite phrase placée en exergue du Chien andalou par Buñuel, indiquant que le Chien andalou était un appel au meurtre, et des phrases de Dali, j'en cite une de 1929, s'opposant aux infâmes et abominables idéaux de tout ordre, esthétique, humanitaire, philosophique, pour nous ramener aux sources claires de la masturbation, de l'exhibitionnisme, du crime et de l'amour. Évidemment, les milieux radicaux ou socialisants de l'époque, ou communistes, ne pouvaient pas aimer beaucoup ce genre de profession de foi. Dali a joué tout de suite un très grand rôle au sein du mouvement surréaliste, à cause justement de cette, non seulement de cet humour, de ce qu'il apportait dans sa peinture, et d'un apport idéologique tout à fait particulier, qui était l'activité à tendance morale, c'est-à-dire l'activité paranoïaque critique. On peut en voir une excellente définition par Dali lui-même dans le premier numéro du Surréalisme au service de la Révolution, qui a paru en 1930, et qui s'intitule, le titre de ce texte, qui est très court, c'est « L'âne pourri, il est dédié à Gala-Éluard ». Je vais vous donner quelques... Il vaut mieux citer ces auteurs. « Une activité à tendance morale pourrait être provoquée par la volonté violemment paranoïaque de systématiser la confusion. » Or, c'est avec cette merveilleuse recette, je ne dis pas « merveilleux » entre guillemets d'ailleurs, que Dali, car c'est à lui qu'on le doit, a réussi à faire exploser cette espèce de mélange particulièrement instable de matérialisme historique et de psychanalyse dans laquelle se débattait ou qu'avait essayé de fabriquer le surréalisme depuis déjà quelques années. Et ce mélange était naturellement instable. Il a explosé une première fois, une très grande fois, je dois dire, en 1932, avec l'incident d'Oulita, dont je parlerai tout à l'heure. Mais il avait ceci de particulier, c'est que Dali a aidé les surréalistes à assimiler certaines parties de ce mélange, particulièrement indigeste. Le matérialisme historique, très rapidement, il n'en est pas resté grand-chose. En tout cas, c'était absolument incompatible avec tout ce que Dali pensait. Et la psychanalyse, ceci était plus important. Et Dali, pour la première fois, indiquait que, à quoi bon finalement guérir les névroses ? Ça nous plaisait d'autant plus que la guérison des névroses en question était un aspect des tendances bourgeoises autrichiennes de la fin du XIXe siècle. Le complexe d'Oedipe, pourquoi pas ? Pourquoi guérir ? Pourquoi s'attaquer aux névroses ? Surtout dans un but de conservation sociale ou pour aboutir, pour normaliser l'individu. L'importance de cette remarque devait être considérable. Dans le texte qui est l'âne pourri, Dali voulait contribuer, dit « je veux contribuer au discrédit total du monde de la réalité », ce qui, dans une certaine mesure, rejoint certains aspects du second manifeste du surréalisme, même du premier. Et le pouvoir paranoïaque, c'est-à-dire le pouvoir délire d'interprétation, était exalté, et devait s'exalter non seulement parce qu'il prenait comme origine l'inconscient, mais aussi parce qu'il faisait intervenir le désir, pouvant obtenir ainsi des séries de représentations tout à fait différentes de l'objet, peut-être sans limite, la seule limite étant la fonction de la capacité paranoïaque de chaque individu. Et Dali précisait que ceci devait intervenir dans un sens destructeur. Bien sûr, tout cela n'allait pas totalement dans le sens de politisation que nous suivions à l'époque, et surtout dans la voie du matérialisme historique, comme je viens de le dire. Étant donné en particulier l'énorme talent de Dali, la qualité extraordinaire de sa peinture et de ses dessins, la qualité extraordinaire des poèmes de l'époque, ça a suscité quelques remous au sein même du groupe surréaliste et probablement quelques agacements. Il est sûr que très tôt, Aragon était agacé. Il y avait peut-être des considérations secondaires. Il y avait la condescendance de Gala pour Elsa Triolet. Il y avait le fait qu'Elsa Triolet était absolument incapable de comprendre quoi que ce soit, non seulement du surréalisme, mais de Dali. Était au contraire tout à fait révolté par cet aspect paranoïaque avec ses incidences dans la sexualité. Il y avait beaucoup de choses pour aboutir à un agacement. Mais le rôle de Dali était de plus en plus grand, et ça n'est pas du tout par hasard qu'en 1931, à une époque de crise, après le retour d'Aragon et de Sadoul de Kharkov, alors qu'on ne savait pas ce que le surréalisme allait devenir, qu'il y avait incontestablement la nécessité de reprendre beaucoup de choses en main, de développer ou de pousser à une activité collective, une petite commission a été formée à la demande de Breton, qui se composait de Dali et de moi, pour essayer d'indiquer quels étaient les axes dans lesquels il fallait s'engager. Je veux dire que ma contribution a été plutôt faiblarde, et elle montrait ce que Dali d'ailleurs a vu par la suite, le premier, quelles étaient les limites de l'action politique dans les domaines qui nous intéressaient. En revanche, pour Dali, c'était autre chose, car Dali, à ce moment-là, a proposé la fabrication d'objets à fonctionnement symbolique. L'origine de ces objets était une sculpture de Giacometti, mais comme Dali l'indiquait, cette sculpture restait une sculpture. Vous pouvez vous reporter au catalogue de la première exposition de ces objets, catalogue entièrement rédigé par Dali, Je dois dire que les objets qui sont classés, la classification est également de Dali. Il y a les objets à fonctionnement symbolique, les objets transsubstantiés, les objets à projeter, les objets enveloppés, qui sont des fantaisies diurnes, les objets machines, il y en a un ici dans son exposition, et les objets moulages. Eh bien, je vais conclure.
Quitte à revenir tout à l'heure.
Oui, je vais conclure. Voilà donc. Et à l'époque, dans cette activité, je veux dire que Dali était entièrement solidaire de tout ce que nous faisions. Et quand les tracts anti-impérialistes, très politiques, très marxistes, que nous rédigions, quand ils ne portent pas la signature de Dali, c'est parce que Dali était étranger et qu'il nous était, enfin, nous avions décidé de ne pas faire figurer les signatures des camarades étrangers en bas de ces tracts. En tout cas, il les signait. Et tout ceci a abouti à la crise finale, un texte que, paraît-il, la direction de cette maison en a refusé de faire lire en public parce qu'elle le trouve scandaleux, ce qui montre qu'il n'y a rien de changé depuis 1932, qui est la rêverie, qui est Doulita, lequel texte a abouti à la rupture entre Aragon, Sadoul, d'une part, et les surréalistes, d'autre part.
Félix Labisse, c'est en tant que peintre que j'aurais voulu vous interroger sur vous passer pour admirer Dali, tout au moins le peintre, et j'aurais aimé que vous essayiez de nous expliquer comment, à votre avis, s'y prend Dali pour peindre, ou comment il s'y prenait, je ne sais pas.
Il est très difficile de parler de la technique de Dali, qui est une technique particulièrement complète, n'est-ce pas ? Il a un métier extraordinaire, il a toujours eu un métier extraordinaire, donc, ce n'est pas la peine de parler de sa technique. Sa technique, c'est une technique qui vient tout de même du XVIIe siècle, du XVIIe siècle surtout, et qui a été revue un peu par ce qu'on appelle les pompiers du XIXe siècle. De ce côté-là, moi, je suis étant parfaitement inconditionnel en ce qui s'agit, en ce qui concerne la peinture de Dali. Je ne peux vous dire que je suis très touché quand je lis certains articles de journaux, comme il y en a eu récemment, des critiques absolument imbéciles, n'est-ce pas, mélangeant tout, ne comprenant rien, mélangeant le comportement et la peinture, ça n'a rien à voir avec l'art. Maintenant, j'aimerais bien parler de son comportement qui est actuellement excessivement critiqué. Que Dali a un comportement excessif, parce que c'est un personnage excessif, c'est tout naturel que son comportement soit excessif. On lui reproche aussi d'être, comment dirais-je, publiciste de lui-même. Oui, là, peut-être, mon Dieu, à la rigueur, on peut le croire, bien que nous avons autour de nous, en France, nous avons en Europe, et dans le monde entier, des peintres et des sculpteurs qui font exactement la même chose, et on ne les insulte pas dans la presse. Pour en revenir, pas à la technique, mais à la représentation qui compte chez Dali autant que la peinture. Enfin, il a ses thèmes comme chez tous les peintres, ses thèmes qui reviennent, qui disparaissent, qui s'ajoutent à d'autres thèmes. Enfin, de la peinture, depuis le premier tableau jusqu'au dernier tableau, c'est une longue histoire. C'est toujours la même histoire, d'ailleurs, qui se répète. Il y a des chapitres différents, c'est tout. En tout cas, ce qui est considérable chez Dali, c'est la précision avec laquelle il raconte son histoire, enfin l'histoire de son tableau, donc c'est lisible. L'onirisme total de ces thèmes, et alors un érotisme particulièrement glacé qui n'est pas fait pour me déplaire.
J'aurais voulu vous demander de mettre en rapport l'œuvre de Salvador Dali avec ces notions du baroque et du maniérisme que vous avez si bien su dégager dans vos ouvrages.
Oui. Alors, c'est une idée délirante. C'est une idée loufoque,
un paradoxe que je vais soutenir et que je vais même systématiser, ce qui est une forme de paranoïa. Et c'est l'idée suivante, Dali n'est pas original. Je veux dire par là que l'origine de son inspiration est externe. Par contre, alors là ce ne sera pas une idée délirante puisqu'elle est banale, Dali est un excentrique. Il est excentrique dans la mesure où il fait de l'excentration du modèle externe qu'il imite. Alors en somme, ce dont je voudrais vous parler, c'est de Dali imitateur, Dali le mime, Dali le pitre, faire une pitéco-dalinographie. Voilà ce que je voudrais faire. Et en particulier, comme l'a suggéré José Pierre, Dali faisant du à la manière de ces gens qui, au XVIe siècle en particulier, faisaient du à la manière de, et que pour cette raison, on a appelé les maniéristes. Et puis aussi, Dali faisant du à la manière de ces gens qui ne voulaient faire à la manière de personne, ce qui était une idée tellement baroque qu'on les appelait les baroques. Voilà donc tous les paradoxes délirants que je vais maintenant systématiser devant vous. Dali n'est pas original, car à l'origine de sa création, il y a quelque chose qui n'est pas Dali. Alors, ce peut être Vermeer de Delft, ce peut être l'Angélus de Millet, ce peuvent être des croutons de pain, c'est la Vénus de Milo, c'est une sauterelle mangée par les fourmis. Enfin, il y a un modèle. Il y a un modèle que l'on peut modeler comme une mie de pain, un modèle comestible. Seulement, l'ennui avec les modèles comestibles, c'est qu'ils peuvent être obsédants, et devenant obsédants, ils sont anthropophages. Alors on ne sait plus qui, de l'artiste ou du modèle, lequel dévore l'autre. Et j'ai trouvé d'ailleurs un témoin qui s'appelle André Breton et qui écrit de lui « Lorsque Dali s'introduit en 1929 dans le surréalisme, son œuvre peinte antérieure n'annonce rigoureusement rien de personnel. Sur le plan théorique, il procédera à partir de la part emprunt et juxtaposition, dont l'exemple le plus frappant est l'amalgame sous le nom d'activité paranoïaque critique de la leçon de Cosimo et de Vinci. » Alors Cosimo et Vinci nous renvoient au XVIe siècle. Il existe au XVIe siècle une école italienne, au départ, de peinture, les maniéristes. C'est une école de suiveurs, par conséquent, qu'on a longtemps méprisée précisément pour cette raison. Mais en fait, si on regarde de près l'imitation maniériste, on s'aperçoit qu'elle est assez curieuse dans la mesure où le modèle qui leur sert de tremplin leur sert aussi et surtout de cible. Ils imitent, oui, mais en agressant leur modèle, en ne retenant de lui qu'un aspect qu'ils amplifient outrageusement et qui, par conséquent, décentre l'idée centrale du peintre ou de l'artiste qui avait constitué ce modèle. Ainsi, leur imitation procède beaucoup plus par déformation que par conformation. Ils ne s'appuient sur un modèle que pour le malmener. Mais c'est ce que fait Dali avec Vermeer de Delft et sa dentelière, C'est ce que fait aussi Marcel Duchamp à l'égard de la Joconde. Alors, pour faire de l'excentration, ou, comme le disait Félix Labis, Dali est excessif, pour faire de l'excès, comment font-ils? Eh bien, en somme, il y a deux procédés, l'un qui consiste à sortir du centre et l'autre qui consiste à faire de la superposition. Alors, sortir du centre, eh bien, c'est par exemple l'usage de la perspective oblique. Au lieu de regarder le modèle en face, selon un angle de 90 degrés par rapport au plan dans lequel il se trouve, que j'appellerais une orthomorphose, il le regarde obliquement, ce qui fait que l'image se trouve déformée. C'est un procédé que l'on appelle une anamorphose. Il le regarde également par en dessus. Et souvenez-vous du Christ de Saint-Jean de la Croix. Ou alors par en dessous, ou latéralement. Il y a également toutes les déformations par élongation. Dirais comme un maniériste. Souvenez-vous de l'allongement dans le sens de la verticale, de ce mouvement ascendant qui caractérise les figures de Dali. Il y a également des élongations horizontales. C'est par exemple tous ces panoramas qui constituent une obsession chez les paysagistes du temps, cette élongation dans la largeur, si j'ose dire. Il y a également des effets de projection sur des miroirs concaves, sur des miroirs convexes, sur des miroirs cylindriques, de manière à déformer cette image qui devient en effet comme une matière comestible à l'œil et que l'on peut triturer par le jeu des moyens optiques comme de la mie de pain. Voilà ce que font les maniéristes. Et puis il y a un autre groupe de procédés, c'est la superposition. Alors la superposition, on la trouve en peinture, en particulier superposition d'une forme humaine et d'une forme naturelle. Il y a très souvent des paysages à forme humaine, des villes qui revêtent un aspect anthropomorphe. Il y a également des entassements d'objets qui évoquent un visage. Le maître du genre s'appelle Archimboldo. Image double, par conséquent, également permutation. On permute les éléments d'un ensemble pour faire ressortir autre chose. En littérature, c'est le procédé qu'on appelle l'anagramme. Il y a également les énigmes qui consistent à présenter des mots qui renvoient à un autre mot que l'on cache. Il y a également les hybridations, les sirènes, les centaures, les monstres, les chimères. Alors tous ces procédés qui consistent à recomposer des éléments empruntés à des êtres différents pour faire autre chose, bien, j'estime qu'on les retrouve également dans la création dalinienne. Bon, alors si vous voulez, on peut procéder aux travaux pratiques maintenant. Alors voilà, les diapositives sont classées selon deux groupes. Un premier groupe a trait au mode de création et un deuxième groupe au procédé de création. Alors voilà le modèle. C'est un modèle éminemment comestible, il s'agit de la Vénus de Milo. Et puis, je vous propose maintenant une abstraction. Il est difficile de matérialiser par une diapo une abstraction. L'abstraction, c'est un procédé génératif qui est le procédé de répétition. Alors voilà un document, c'est un tableau du XVIe siècle, n'est-ce pas, qui utilise ce procédé répétitif. Il faut que le... Voilà. Autre exemple, le modèle, toujours la Vénus de Milo, et puis en haut, sur la droite, vous avez une figurine d'un auteur très curieux du début du XVIIe siècle, Bracelli, qui est l'auteur d'un recueil intitulé « Bizarrie di varie figure » qui date de 1624. Et Bracelli crée des êtres humains à partir d'éléments géométriques et en particulier de tiroirs. Les tiroirs plus le modèle, cela donne la Vénus au tiroir que vous avez sur la droite. Autre exemple de mode de création, un modèle. L'atelier de Vermeer de Delft. Alors remarquez la position des personnages essentiels. Vous avez un personnage masculin vu de dos, un personnage féminin vu de profil pour le corps, de face pour le visage, un tableau mural et de la lumière qui vient de la gauche. Bon. Dali va reprendre tous ces éléments, mais dans un contexte tout à fait différent, en le contaminant avec un autre modèle. Alors, avant qu'on ne fasse disparaître la photo, je vous demande également de regarder la manière dont est habillé le peintre. Il a un habit avec des côtes dans le dos, une ceinture noire, des bras avec un arrière-bras noir et un avant-bras à côtes. Bon, il s'agit ici de l'Angélus de Gala. Qu'est-ce que vous remarquez ? Un personnage masculin vu de dos, un personnage féminin vu de face, un tableau mural, une lumière diffuse à la manière de Vermeer venant de la gauche. Manifestement, il y a contamination ici dans l'Angélus de Gala, contamination de l'Angélus de Millet et de l'atelier de Vermeer de Delft. Le spectre de Vermeer pouvant servir de table. Regardez l'habillement. Il a inversé tous les éléments de l'habit du peintre. Ce qui est à côte dans l'original devient noir, et ce qui est noir devient à côte. Cette inversion systématique montre bien qu'il y a une origine externe, qui est le modèle à l'égard duquel il agit par inversion. Alors voilà des figurines de Dali que j'ai mises ici pour marquer l'homologie avec les dessins de Blacelli. Alors, il est évident que Blacelli l'a inspiré, mais il faut voir ce qu'il en fait. Il est évident aussi qu'il y a tout un apport de sa fantasmatique personnelle, selon la méthode paranoïaque critique. Voilà une anamorphose. Il s'agit d'une reproduction sur un plan oblique du visage d'Ernest, duc de Bavière, peu importe d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cette anamorphose date de 1598. Alors, si on veut restituer le visage dans ses vraies proportions, il faut se placer sur le côté, et là, vous avez un visage qui reprend son aspect normal, si vous êtes tout à fait sur le côté. Alors, Dali, eh bien, voilà une anamorphose. Mais c'est une pseudo-anamorphose, parce que ici, le procédé n'obéit pas à des lois d'optique. Vous pouvez vous placer où vous voudrez, vous verrez toujours un portrait anamorphotique. Bon, sur la droite, vous avez un médaillon. C'est un tableau de Parmesan, peintre maniériste du début du XVIe siècle, et qu'il appelle autoportrait. Ce qui caractérise ce portrait, c'est qu'il est peint, il peint son image reflétée dans un miroir convexe. Ce qui fait que la main est disproportionnée par rapport au visage et au buste, qui se trouve à une distance plus grande. Alors, regardez ce que cela devient chez Dali, sur la gauche. Alors, vous avez une main qui est une imitation hyperbolique du procédé inventé par Parmesan, mais avec évidemment une signification qui est tout à fait différente, puisque la main devient obsessionnelle, fantasmatique, ce qu'elle ne veut pas être chez Parmesan, qui est simplement tout heureux de montrer un procédé inventé par la nouvelle science optique. C'est tout, ça ne va pas au-delà.
Antonio Saura, j'aurais aimé vous poser la question de savoir comment le personnage et l'œuvre d'ailleurs de Salvador Dali avaient été reçus et sont encore reçus aujourd'hui par l'avant-garde espagnole.
Bien. L'accent a été mis sur les périodes les plus intéressantes du peintre, donc dans une époque vraiment surréaliste. L'œuvre qui est réalisée après l'année 45. Il est à peine représenté. L'accent a été mis sur cette période très créative. Il y a quand même un parti pris qui peut être trompeur pour le spectateur. Dans une certaine mesure, on a caché à peu près 35 ans de la vie d'un artiste. Et c'est justement dans cette année que l'œuvre d'Ali a dégénéré et il s'est trahi à lui-même. Et c'est justement dans ces 35 ans que le nom d'Ali, à niveau populaire, il a eu par ses déclarations médiocres, par ses concessions sans limite, par son œuvre très faible, une plus grande résonance. C'est très significatif. Pour les jeunes peintres enfermés dans l'Espagne franquiste de l'après-guerre civile espagnole et mondiale que j'ai été, Dalí a représenté, de très loin, une image de la liberté et de l'imagination face à face à une société que méprisait. C'est très tôt que ce mirage a disparu. La première déclaration en public de Dalí dans l'Espagne franquiste, c'était dans une conférence en laquelle il a dénigré Picasso. Dalí, il s'est trahi à lui-même, il a trahi ses amis. Dalí a cessé d'être, très tôt, pour la jeunesse espagnole, un prototype de l'artiste valable comme un exemple de lutte. Dalí a fait une proposition pour réaliser un monument à Franco, monument que, heureusement, n'a jamais été réalisé. Il était partisan de la monarchie absolutiste. Il a réalisé des tableaux de la famille de Franco. C'est une déclaration spécialement pénible. Il a considéré Franco comme le seul et véritable surréaliste actuel. Tous ces faits démontrent une altération très grave des valeurs. De ces valeurs, une médiocre et pénible application des méthodes paranoïa critique, dans laquelle, en plus, l'humour est complètement absent, pour se convertir dans une sinistre mascarade. Récemment, très récemment, le personnage, il s'est déclaré partisan de la peine de mort et de la répression sans merci contre le peuple basque. Tout ceci est caché au public, mais pour bien ou pour du mal, ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai que la plupart des tableaux récents de Dalí sont une véritable insulte au public. Ils sont indignes de figurer dans un musée d'art moderne. Il a créé de lui-même, de l'artiste en général, une idée fausse. De l'artiste irresponsable qui est capable de faire ou de dire d'une façon irresponsable n'importe quelle bêtise qui lui passe par la tête et qui, au contraire, dans son travail personnel, réalise un lent effort sans aventure qui cherche exclusivement les chemins les plus effectifs et cyniques pour avoir le pouvoir et l'argent. Je pense au contraire que l'œuvre de l'artiste actuel doit être de plus en plus responsable, que l'artiste doit jouer un rôle grave et important face au monde contemporain.
Merci Antoine. Robert Lebel, je voulais vous interroger sur l'influence de Salvador Dalí sur le comportement de l'artiste contemporain.
Mon intention ce soir est moins de tracer un portrait de Dalí que de montrer en quoi il a été l'un des destructeurs les plus efficaces de ce qu'on a nommé l'art moderne. L'équivoque actuel vient de ce que nous persistions à nous considérer comme des modernes, alors que le modernisme n'est plus qu'un souvenir historique. Sur le plan dit culturel, notre époque post-moderniste est suffisamment encombrée de reliquats du modernisme pour que nos contemporains s'imaginent toujours qu'il se perpétue ou même qu'il prospère, bien que les signes de son extinction soient visibles partout. Un exemple typique de cette survivance fictive est précisément le Centre Pompidou qui nous abrite ce soir. Créé tardivement par la volonté d'un chef d'État, à une époque charnière où déjà le modernisme s'effondrait, tandis qu'il avait pour fonction de favoriser son essor, il est passé presque instantanément du stade de projet novateur à celui de vestige vétuste d'une ère révolue. Implanté à Paris dans un quartier ancien, il y fait figure de ruine ready-made. Comme l'aurait dit Marcel Duchamp lors de sa rétrospective de 1977, s'il y avait assisté. Ce n'est donc pas par hasard que nous sommes convoqués ici même pour parler de Dali, à qui nous devons le spectacle le plus parfait que l'on puisse rêver du naufrage moderniste. Le besoin de faste visuel, vrai ou truqué, existe plus que jamais chez les déshérités de la culture. Aussi, le Centre Pompidou joue-t-il à bureau fermé le naufrage de Dali, simultanément avec le sien propre, autant et plus que le Grand Palais n'a joué récemment l'avalanche Picasso. Cela sent moins la permanence de la créativité moderne, contrairement à ce que proclament les fonctionnaires culturels toujours en retard d'une guerre, que la fin d'une certaine vision et d'une certaine conception du monde, et ces foules qui forment patiemment des files d'attente à la porte des sanctuaires de l'art participent sans le savoir à des rites funéraires voués aux cendres d'un modernisme défunt. Dans ces conditions, que pourrions-nous reprocher à Dali ? Depuis son procès chez Jean des Bretons le 5 février 1934, tout a été dit sur son compte, toutes les injures, les diatribes, les dénonciations, les imputations sont épuisées. Toutes les louanges aussi de la part de ses turiféraires. Faut-il en conclure que ce que fait ou ne fait pas Dali n'a plus aucun intérêt et par conséquent son exposition actuelle non plus? Je ne le crois pas, car il a joué consciemment ou non un très grand rôle dans la chute du modernisme et dans la coupure qui devait aboutir à l'avènement de l'époque post-moderniste où nous situons aujourd'hui. Si l'on tente d'isoler dans son système ce qui en forme l'ossature, on trouve d'abord l'impérieux besoin de se montrer. Il est satisfait en érigeant l'exhibitionnisme en méthode. Sur son exhibitionnisme sexuel et pictural, si intimement lié qu'il se soude en une seule pulsion, il s'est prolixement expliqué dans sa vie secrète. La clé de son comportement esthétique, il est vrai sans détour. Ayant décidé d'être un grand peintre, il ne possède pas en lui, et il le sait, le pouvoir ou la capacité de briller ou d'être en érection, à jet continu. Mais il est particulièrement apte au mimétisme qu'il perfectionnera sur le plan esthétique en s'astreignant à subir un formidable dressage académique à l'École des Beaux-Arts de Madrid, célèbre à cette époque pour la pratique maniaque du plagiat qu'elle impose à ses élèves. Dès ses premiers exercices d'école, il assimile donc avec une inquiétante promptitude la technique de la plupart des peintres anciens et contemporains en renom, mais sa préférence manifeste est pour Meissonnier. Et il lui demeurera fidèle puisqu'on ne voit pas moins de 3 statues monumentales de ce maître pasticheur au seuil du Centre Pompidou. Malheureusement, lorsque même 1928, il se fixe à Paris, qu'il entend conquérir, il doit constater que Meissonnier n'est plus à la mode et que l'avant-garde du moment, c'est le surréalisme. En bon stratège, il comprend aussitôt qu'il lui faut se l'approprier s'il veut se hisser au premier rang. Certes, il en a instinctivement horreur, car le surréalisme préconise avant tout la liberté et la révolte à outrance, ce dont Dali ne veut absolument pas, puisque les contraintes lui sont indispensables. Mais il saisit trop pleinement l'importance tactique des perspectives que le surréalisme lui ouvre pour hésiter à le suivre sur le chemin d'une entière spontanéité de l'expression et de ce que Breton nomme le champ psychophysique total. Très rapidement toutefois, après quelques provocations fracassantes, les choix idéologiques ne pourront plus être esquivés et il apparaîtra au grand jour, viscéralement attaché au piteux carnaval d'un ordre archaïque et strictement hiérarchisé dont il se croit le hiérophante. Et son extraordinaire dextérité manuelle ou son irrépressible volubilité, après avoir aiguillonné son exploration surréaliste de soi, ne serviront plus qu'à systématiser son exhibitionnisme et à le transformer en procédé d'auto-glorification. Ce cas n'est pas unique, on le sait, mais le revirement de Dali eut ceci d'exemplaire qu'il coïncidait avec la recrudescence de la répression féroce que le modernisme eut à endurer en Europe depuis l'écrasement de l'avant-garde russe et la croisade d'Hitler contre l'art dégénéré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'est que trop évident aujourd'hui que cette répression a pu atteindre son objectif à terme, en cassant les reins du modernisme. Tel qu'en lui-même, enfin, cette exposition le change, Dali toujours ambivalent, jusque dans l'idée souveraine qu'il se fait de sa personne, brosse pour nous son propre portrait, mais en double image, sous deux aspects opposés, l'un en prophète chevronné de l'art rétro, l'autre en battleur intellectuel dans un show de la dernière nouvelle vague. On ne sait pas ce qu'on doit admirer le plus dans ce système, la ruse ou la naïveté, la virtuosité ou le disparate.
Merci Robert Lebec. Il est arrivé à Théo Gerber une expérience assez singulière dont il va nous entretenir. En effet, dans sa propre peinture, il y a quelques années, vers 1973-1974, apparaît un hommage littéral à la peinture de Salvador Dali. Pourquoi cet hommage de la peinture de Théo Gerber à la peinture de Salvador Dali ?
J'ai accepté avec un peu trop de légèreté de venir ce soir ici, et je le regrette bien, parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur la question, c'était un pur hasard. Moi, je commence mes tableaux avec des tâches, et je fais lecture dans ces tâches, et sur un de ces tableaux, il y avait en haut, à droite, cette tâche qui me faisait penser au piano de Dali. Et comme ça, je me suis amusé à continuer le tableau, et c'est devenu ça que vous voyez là-bas, et qui est tout à fait une exception dans mon travail. Je me suis posé des questions. En tous les cas, j'ai compris que moi, je n'avais rien à foutre avec le paranoïa critique, parce que moi, c'est plutôt la paranoïa non critique. Parce que Salvador Dali, il sait d'avance ça qu'il va trouver, et moi, je ne le sais pas. C'est justement mon aventure, que, à mon avis, manque un peu chez lui. Alors, ça ne suffit pas. Plus tard, si je me souviens, il y avait beaucoup de discussions avec José, surtout sur l'exclusion. Et là, ces discussions m'ont appris beaucoup sur le surréalisme. J'ai compris que le surréalisme était le dernier grand mouvement qui essayait d'englober toutes les choses, d'essayer l'impossible, de la révolution à l'art, à la poésie et tout ça. Mais sur Dali, je n'ai pas compris grand-chose. Alors curieusement, plus tard, j'ai même fait un deuxième. Ah, j'aurais dû vous montrer. Comment ça marche? Je voulais vous montrer le tableau quand même qui est à l'origine de ma chose. Excusez-moi, c'est venu un peu trop tard. Mais plus tard, ok, ça ne vient pas. Beaucoup plus tard, ce tableau m'a quand même inspiré encore une fois de faire quelque chose, un peu d'après Dali. Mais je vais vous montrer. Non, mais ça ne vient pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, l'autre fait.
Non. Voilà, après.
Il y a toujours d'un. Voilà. C'est-à-dire, le tablier original de Dali s'appelle L'apparition de ma cousette Carolinetta sur la plage de Rosas. Et ce tableau a plus grande affaire avec celui d'origine. Et je pense que j'ai plutôt réalisé mes propres fantasmes. En tous les cas, toutes ces choses anecdotiques donnent rien qui explique ma fascination pour Dali. Parce que malgré tout, je suis fasciné par Dali. Alors je me suis amusé de faire une liste, un catalogue arbitraire de questions pour cerner le problème. Alors là, j'ai pris tout ce qui m'est passé dans la tête, sa peinture vue par les surréalistes, ou sa peinture vue par l'opinion publique, l'idéal artistique de la Renaissance, le kitsch, Dali et le kitsch, Dali dans l'histoire de l'art, Dali le meurtre du père en rapport avec le texte qu'il a écrit au contexte du chien andalou, le bon peintre jusqu'à le mauvais après, Dali et Freud et la psychanalyse, le cannibalisme, Dali et son double Avitadolar, l'argent, Dali et Hitler, cette déclaration monstrueuse qu'il a fait, Dali et Duchamp, Dali vu par un catholique, un marxiste, un phalangiste, Dali le clown et star, Dali et la bonne cause, Dali le paysagiste de Port Ligat, Dali et Chirico, ou Dali l'ennemi public de la culture. Et j'ai essayé de tourner la question de tous les côtés, de droite à gauche, et de plus que j'ai réfléchi dans ma Provence tranquille, je trouvais que toutes les choses que je m'imaginais étaient faux. Je ne comprenais plus rien du tout. Je trouve qu'il n'y a pas le bon Dali et le mauvais Dali, il n'y a pas le Dali surréaliste ou non surréaliste. Je crois que Dali n'était jamais surréaliste. Aussi, sa peinture ne m'intéresse pas terriblement. Je trouve que c'est une peinture fabriquée, maniériste, c'est une recette. Et quand même, quelque chose me fascine en Dali. Je trouve que Dali ne se cache pas tout. Quand il essaye à nous dévoiler ses secrets psychologiques ou autres, c'est uniquement pour se cacher. Dali est un être extrêmement fragile et timide. Tout ce qu'il dévoile, c'est uniquement pour se cacher. C'est comme un bouclier. Ces tableaux sont un bouclier contre le monde. Et là, il y a quand même quelque chose qui me fascine en Dali. C'est-à-dire, il pose la question de la liberté d'une toute nouvelle manière. Bien sûr, pas de ma liberté, ni de la vôtre, ni de celle des ouvriers, ni de celle des noirs et des jaunes. Absolument pas. Seulement c'est celle de Dali. Mais là, je tombe sur quelque chose. Ah, j'ai oublié, je voulais encore vous montrer un tableau. Excusez-moi, hein, si, je suis un peu con.
Ah,
ça ne vient pas? Non, non, la vache spectrale, je voulais montrer. Voilà. Au lieu de vous montrer tous ces tableaux que j'aime pas en Dali, je voulais vous montrer ceux que j'adore quand même. Malgré tout, je trouve un tableau merveilleux. J'étais étonné quand j'étais au Beaubourg. Ce petit tableau tenait entre plein les gens que j'adore, comme Picabia, comme Kandinsky et tous ces gens-là. Je trouvais, curieusement, ce tableau avec quelque chose de sincère et de vrai que je trouve rarement chez les autres. Et là, je ne fais pas la distinction comme d'autres entre la période surréaliste qui était la bonne ou l'autre qui était la mauvaise. Moi, je trouve Dali était surréaliste pour en profiter. C'était justement, on pourrait entrer sur cette question de cannibalisme. Dali veut manger tout, mais manger justement pour se préserver. Et à la fin, j'arrive à ça, c'est peut-être cette solitude, c'est ce problème de poser la question de la liberté qui m'a fasciné, parce que curieusement, ça m'a fait quand même penser à une phrase que je vais vous lire. « Si je base ma cause sur moi, l'unique, elle repose sur son créateur éphémère et périssable qui se dévore lui-même, et je puis dire, je n'ai basé ma cause sur rien. » Et c'est aussi un tableau dont ce titre m'a fasciné, qui est d'ailleurs curieusement pas dans l'exposition, parce que ça m'a donné un peu le clé de Dali, c'est le pharmacien de Lampourdane qui cherche absolument rien. Parce que pour moi, le pharmacien de Lampourdane, c'est lui, Dali, lui-même. C'est l'homme qui cherche rien. J'ai terminé comme ça, j'ai un peu fait de confusion, mais je m'excuse.
Merci.
J'ai décidé, en ce qui me concerne, de parler un peu plus en détail de la paranoïa critique, puisque personne, aucun de mes invités ne l'avait pris dans le champ de ses considérations de façon étroite. Ce que je vais plutôt essayer de faire, c'est de raconter, d'essayer de décrire comment Dali a fabriqué la paranoïa critique. Il fait remonter à sa petite enfance, si on l'en croit, les premières manifestations de ses talents paranoïaques. Il raconte en effet que, étant tout petit enfant, il adorait ces images devinettes que tout le monde connaît, et où, par exemple, on voit un chasseur dans la forêt, et on voit bien le chasseur, on voit bien le chien même, mais où est donc le lapin? Et le petit Salvador, non seulement trouve le lapin, mais il trouve deux, trois et même quatre lapins. Cette anecdote a l'intérêt de souligner la relation de ces images devinettes avec une attitude universelle dans l'espèce humaine qui consiste à interpréter les formes indéterminées de la nature. Et d'ailleurs, parlant de cette attitude universelle d'interprétation du monde, Breton a proposé l'admirable et très simple expression de lecture de nuages. Évidemment, cette lecture de nuages n'a pas tardé à préoccupé les peintres, et je n'en citerai comme exemple que le fameux mur de Léonard, ce vieux mur croulant, dans lequel Léonard de Vinci conseillait à ses élèves en panne d'imagination de découvrir des scènes de bataille ou des paysages fantastiques. À son tour, le surréalisme n'avait pas manqué d'interroger le mur de Léonard, et dès 1925, Max Ernst, avec ses frottages, n'avait pas fait autre chose qu'interpréter les formes qu'il obtenait en passant une feuille de dessin sur un plancher, sur un mur avec des plein d'aspérités, sur une ficelle déroulée, etc. Salvador Dali aurait-il donc été, dès le départ, un meilleur lecteur de nuages, un meilleur paranoïaque que Max Ernst? Non. Soyons nets, il ne l'était pas, il l'est devenu. Il l'a voulu même. Pendant 10 ans, je me suis attaché à une étude systématique des problèmes de la vision. Entendons qu'entre 1928 et 1938, Dali s'est fabriqué un regard paranoïaque avec toute l'intelligence qu'il faut bien lui reconnaître. Car, en bon lecteur de Freud, Dali sait, comme il le dit, « nous voyons ce que nous avons quelque raison de voir. Nous voyons surtout ce que nous croyons que nous allons voir. » Mais alors, peut-on se demander pourquoi Dali impose-t-il à ce système qu'il n'a même pas inventé l'appellation scientiste de paranoïa critique? D'abord parce que, nous le savons, il est toujours extrêmement épris d'une caution scientifique. Et aussi, sans doute, du fait qu'en se rapprochant des surréalistes, il a découvert que le seul homme de science qui, au fond, trouve grâce aux yeux des surréalistes, c'est Sigmund Freud. Et c'est Freud qui va attirer l'attention de Dali du côté de la paranoïa, cette maladie mentale dont une des caractéristiques est le délire d'interprétation. Et il n'y a dans la paranoïa comme maladie que le délire d'interprétation qui intéresse Dali. Dans son admirable ouvrage « Psychopathologie de la vie quotidienne », le premier grand ouvrage de Freud traduit en français en 1923 et qui est aussitôt devenu le bréviaire des surréalistes, Freud souligne combien les paranoïaques s'attachent aux détails les plus insignifiants pour en tirer des conclusions d'une vaste portée, conclusions à la fois délirantes et, d'un certain point de vue, parfaitement rigoureuses. Dès cet instant, cette assimilation de ces deux faits, le fait psychopathologique et le fait artistique, cette assimilation ne sera pour Dali qu'un jeu d'enfant. D'autant plus qu'en 1927, où paraît la traduction française de notre livre de Freud, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Dali reçoit de Freud lui-même un nouvel encouragement encore plus précis, décisif, car en effet, dans ce livre, Freud édifie toute sa démonstration sur un souvenir du peintre florentin, lequel Vinci raconte qu'étant tout petit enfant, un vautour s'est précipité sur le berceau où il dormait et lui a glissé brutalement sa queue dans la bouche. Or, en 1913, 3 ans à peine après la publication en allemand de l'étude de Freud, un de ses disciples, Oscar Pfister, découvre le fameux vautour dans le tableau de Vinci qui est au Louvre, la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne. Ce vautour se confondant avec le manteau bleu de la Vierge. Voilà par conséquent pour Dali, deux psychanalystes qui, à propos d'une indéniable image double, donnent à Dali le déplorable exemple d'un délire d'interprétation parfaitement paranoïaque. Mais tout ceci n'explique pas encore le choix opéré par Dali à l'instant même de son entrée dans le surréalisme. Pour savoir ce qui a pu motiver sa décision, il suffit d'examiner la situation artistique du surréalisme à la date de 1929. Quels sont à cette date pour lui les concurrents sérieux? Miro et surtout Masson sont en froid avec le groupe. Man Ray ne compte pas. Picasso est trop loin. À part Max Ernst, dont nous avons vu qu'il était déjà dans la ligne de tir de Dali, reste Tanguy, arrivé en 1926, et Magritte arrivés en 1927. En bon petit dernier, c'est ces deux-là, Tanguy et Magritte, que Dali va s'attacher à éliminer en priorité. Et il choisit pour cela la méthode la plus simple. Il prend à son compte ce que Tanguy et Magritte ont de mieux, de plus neuf, de plus révolutionnaire, et il y met sa marque. Tanguy propose dans ses toiles une sorte de terrain vague de l'esprit, un véritable espace mental dont rien depuis n'est venu sérieusement menacer la beauté sublime. Ces plages, par définition insituables, Salvador Dali décide d'en confisquer la séduction à son profit, en ramenant tout simplement l'inconnu au connu, en allant de l'inconscient de Tanguy au très conscient, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici à l'arrière-plan, en introduisant dans l'espace de Tanguy le très reconnaissable décor de la côte catalane, de Port-Lligat, de Cadaqués, et par conséquent, en connaissance de cause, car Dali sait très bien que le goût de l'anecdote, le goût du déjà-vu, est toujours plus fort chez le spectateur moyen que le goût du rêve et du jamais-vu. Par rapport à Magritte, son jeu sera évidemment différent. En 1928-29, Magritte paraît avant tout préoccupé par les relations des mots et des images. Ainsi le voit-on intitulé en 1928 ce tableau « Le paysage fantôme », ce tableau où l'inscription « Montagne » vient se superposer à un visage de femme. On voit bien comment Dali, lui, aurait traité le même sujet. Il se serait arrangé pour que le visage de la femme ressemble plus ou moins vaguement à une montagne. Car l'image double dont Dali se réclame, ce n'est pas une autre chose, finalement, qu'une image qui hésite entre deux significations possibles. La leçon que Dali retire de Magritte, c'est qu'il faut encore accentuer cette hésitation, ce balancement. Ainsi, dans « Accommodation du désir », en 1929, ce tableau présente, écrit Patrice Schmitt, répété et isolé, une tête de lion, chaque fois modifiée dans son contenu, mais non dans sa forme. Par conséquent, chaque forme, ici la silhouette de la tête de lion, chaque forme peut ainsi recevoir plusieurs contenus à perte de vue, pour peu que l'ingéniosité s'en mêle. Et l'ingéniosité de Dali est grande. Et c'est le cas pour un tableau particulièrement cher à Dali, qui en a donné plusieurs versions et qu'il a longuement commenté, qui est « Dormeuse cheval lion invisible », dont, je signale au passage, on remarque que l'image de base est la fellation, comme si, plus ou moins volontairement, Dali avait voulu faire allusion au fameux vautour de Vinci plongeant sa queue dans la bouche de l'enfant. Par conséquent, on peut affirmer que la peinture paranoïaque critique de Dali repose d'une part sur la dalinisation des plages mystérieuses de Tanguy et d'autre part sur une accentuation purement superficielle de la disjonction que Magritte a opérée entre l'image figurative et son contenu. Mais, prisonnier du système qu'il s'est forgé lui-même, Dali en réalité creuse sa tombe sous ses propres pas. Et il a beau découvrir de plus en plus de lapins, il a beau de plus en plus nous en mettre plein la vue, sa peinture se vide de tout contenu poétique pour ne plus être qu'une suite d'exercices de pure virtuosité. Maintenant que ce tour de table est opéré, est-ce que quelqu'un a une question à soulever? Nous avons, je crois, assez peu de temps pour échanger des idées.
Oui. Première chose, je m'inscris en faux contre tout ce que vous venez de dire. J'ai très bien connu à l'époque et vu les choses se passer, aussi bien Magritte que Max Ernst, que Tanguy et Dali, et je dois dire que votre interprétation de la création de la paranoïa, d'une part, à partir du fameux vautour, et d'autre part, à partir pour essayer d'imiter et d'arranger une situation à partir de Tanguy et de Magritte, est absolument délirante, mais totalement délirante.
je dirais même scandaleusement, et je m'excuse de vous dire parce que je vous aime beaucoup, scandaleusement délirante. Quant au reste, l'épaisseur de conneries que nous venons d'entendre est absolument monumentale et ça montre que la systématisation de la confusion voulait Dali est tout de même extrêmement prenante. Enfin, tout de même, nous avons entendu un critique d'art. Ah, je dois dire que celui-là, il a été très fort et très loin. Je suppose que tout le monde s'en est rendu compte, c'est pas la peine que j'insiste, mais je crois qu'il mériterait tout de même mieux. Oui, il mériterait tout de même, je dirais, une bordée d'insultes dans le pays. On ne peut pas se foutre du monde d'une manière aussi sensationnelle qu'on s'est foutu de nous avec l'intervention de ce monsieur dont je ne connais pas le nom. Après, il y a eu un petit épisode du réalisme socialiste, car il s'agit encore évidemment de la lutte. La lutte contre quoi et pourquoi, on se le demande. Et la lutte de quoi et la lutte des peintres, pourquoi et pour qui. Et j'ai constaté, en effet, d'après le succès d'un certain nombre de paroles prononcées à cet endroit, que le réalisme socialiste n'était pas mort et que Dali fait autant peur qu'à l'époque de Doulita. Je rappelle que José Pierre voulait qu'on en lise, je crois, le texte Rêverie et que la direction de ce musée s'y est opposée, en tout cas n'a pas voulu. C'est pas vrai.
Un instant, il ne faudrait pas qu'une légende se répande à ce propos. Et si le texte Rêverie n'a pas été joué dans le forum, c'est que tout simplement, on doutait des qualités théâtrales de ce texte et deuxièmement, des possibilités théâtrales de cette salle, le forum, qui n'est pas fait pour le théâtre.
Bonne excuse.
Mais un instant.
Bonne excuse. C'est toujours pareil.
Permettez.
Non, je ne permets pas. Je ne permets pas.
Je voudrais terminer.
Eh bien, ne terminez pas, c'est pas la peine.
C'est
absolument pas la peine. Ne terminez pas, d'ailleurs, vous n'auriez jamais dû commencer, mais c'est extrêmement simple. C'est la même chose, comprenez-vous? C'est la même chose. Jamais on ne pardonnera, je prends des choses très simples, à Dali, qui a apporté, ou avec Buñuel, quand Buñuel disait, je le rappelle, que le chien andalou était un appel au meurtre, ou quand Dali se posait, voulait que soient ruinées toutes les abominables idéaux de esthétique, humanitaire, philosophique, etc., pour revenir aux sources claires de la masturbation, l'exhibitionnisme, du crime et de l'amour, il est évident que ceci, en 1980, est aussi scandaleux et aussi mal accueilli qu'en 1930. C'est tout ce que je voulais dire, et je regrette dans une certaine mesure de m'être laissé prendre à cet exhibitionnisme que je goûte assez peu.
Comment ?
Oui, vous pouvez, il y a des micros. Peut-on séparer une œuvre de ce qu'est l'artiste lui-même, de l'homme ?
Mais parfaitement, madame, l'histoire s'en charge sans arrêt. Sinon, nous pourrions reparler d'autre chose qui vous tient certainement à cœur. L'ordre de Staline de Paul Éluard, par exemple. Le prix Staline de Neruda, par exemple.
Vous nous avez annoncé un débat. Nous attendions à avoir un débat. Nous avons eu une série de monologues. Bon, ça commençait à devenir intéressant quand M. Thirion a lancé ses invectives. Nous pensions qu'il y aurait un certain nombre d'échanges. Pour l'instant, on n'a assisté à aucun échange et la salle n'a même pas eu l'occasion de s'exprimer. Alors, j'aimerais qu'il y ait en particulier un dialogue, par exemple, entre M. Saura et M. Thirion. M. Saura nous a lancé un certain nombre d'informations intéressantes, dans lesquelles il se sentait lui-même impliqué et apparemment sincère. M. Thirion doute complètement de sa sincérité. Je crois que là, nous sommes au cœur d'un certain nombre de choses.
Non, c'est très simple. De toute façon, tout ce que je pourrais dire, M. Thirion le considère comme un réalisme socialiste. Parce que moi, je n'ai jamais été un réalisme socialiste, c'est plutôt le contraire. J'ai toujours combattu le réalisme socialiste. Non, dans les trois... merci beaucoup. Mais dans toutes les interventions qui sont ici, n'est-ce pas, la seule qui n'a pas apporté de renseignements par son vision personnelle, c'est Dali, c'était la vôtre. C'était historique, c'est très intéressant. J'ai lu votre livre qui m'a beaucoup intéressé d'ailleurs. C'est historique. Alors, j'aimerais bien savoir aussi son opinion vraiment sur les personnages Dali, ce qu'il représente dans le monde d'aujourd'hui.
Hein? Je vous réponds. Je n'ai jamais été très franquiste, tout le monde le sait. Mais Franco est mort déjà depuis un certain temps, d'une part. D'autre part, Je n'ai jamais non plus admiré les espèces de cabrioles qu'a fait Dali de ce côté-là, aussi bien que du côté de la religion catholique. Mais, tout de même, d'abord je dois considérer que dans 50 ans, tout le monde aura oublié tout cela, complètement et totalement, pour ne voir que la peinture, ce qui reste de la peinture, et même dans les œuvres de Dali que je n'aime pas, je suis obligé, contrairement aux critiques d'art de Bordeaux, de considérer que ça tient debout et que les parallèles qu'on peut faire entre la peinture du XVIe ou du XVIIe siècle, qu'on peut faire sur tous les peintres, sans exception, n'a aucune espèce d'importance. Alors, pour revenir donc à l'importance historique ou phénomène historique, je crois que ce sont des détails et qu'il faut juger de la manière de Dali. Quand j'étais voir Dali, où je l'ai vu assez peu au cours de ces dernières années, mais il y a 3 ans, je vais le voir à l'hôtel machin truc, là, où il descend, André Rivoli, Maurice, oui. Et alors, il s'approche et il me montre une photographie d'un dessin qu'il avait fait. Et il y avait, je crois, le front de Marilyn Monroe, le crâne de Mao Tse-tung et le menton de Franco. Ben, il suffit d'écrire cela pour montrer quelles sont les limites historiques ou politiques des interventions de Dali. De même que, dans une certaine mesure, cette espèce de conversion vers la peinture religieuse, elle est assez, comment dirais-je, elle a ses propres limites, je dirais même dans la critique que je peux lui faire, qui est assez grande. À partir du moment où on voit Gala plus ou moins à poil en Vierge Marie, alors à ce moment-là, moi, je tire l'échelle.
Je peux répondre ? J'ai été prise à partie à nouveau.
Je pense que M. Thirion a fait une erreur d'interprétation. J'ose penser que ce n'est pas un délire d'interprétation.
Mais pourquoi pas ?
Concernant ma propre interprétation du rapport entre Dali et ses prédécesseurs. Je n'ai jamais considéré que cela altérait en quoi que ce soit le talent génial d'imitateur de Dali. En effet... Puisque mon statut bordelais a été mis en cause, je vais me référer à un modèle bordelais. Il s'agit de Montaigne qui dit, et je ne suis pas d'accord avec lui, qui dit « Qui suit un autre, il ne suit rien ». Voir, il n'est rien. Ben, je ne suis pas d'accord avec Michel. Je lui dis, qui suit personne, il suit moins que personne et il n'est moins que rien. En effet, toute avant-garde n'est constituée que par des suiveurs dissidents.
La critique d'art en 1980.
L'œuvre récente de Dali, c'est la preuve de qu'il s'est vidé de son contenu depuis très longtemps.
Il a vieilli comme tout le monde.
Non, c'est pas seulement ça. Picasso l'a vieilli aussi, il était très vieux aussi, il faisait des choses très intéressantes. Il y a beaucoup de peintres qui font des choses fantastiques. Miró, c'est un peintre très vivant qui fait des choses très intéressantes. Non, c'est pas vrai du tout ça. Rembrandt, il a vieilli. Les meilleures œuvres de Rembrandt sont les œuvres de sa vieillesse. Non, ça c'est pas du tout vrai.
Moi, je trouve que tout ça. Ça tourne vraiment à la Sorbonne.
Bon, est-ce qu'on peut rester à la Sorbonne ? J'aurais voulu simplement reprendre la citation de Montaigne. « Qui suit un autre, il ne suit rien, il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. » Et il me semble que ça pourrait se raccorder à ce que disait Madame à propos de la force du Créateur, qui, évidemment, s'il se contente d'être un imitateur et un recompositeur, ne nous donne pas l'impression d'une véritable force créatrice. Et je serais tout à fait de son sentiment à cet égard. Et j'aimerais, en dehors de toute interprétation politique, reprendre l'intervention de M. Saora, que certains ont beaucoup apprécié, parce qu'en effet, il a souligné une tendance que Dali a fortement encouragée dans l'art moderne et qui va... ce qui satisfait beaucoup M. Thirion dans le sens de la destruction. On peut aimer cela, mais on peut trouver aussi, et j'ai l'impression que c'est la tendance actuelle, qu'on attendrait de la part du Créateur tout autre chose. la communication d'une force et d'une force créatrice qui se communiquerait au spectateur ou au lecteur s'il s'agissait de poésie, par exemple.
Les montres molles, il fallait les inventer, non ? Que les inventeurs lèvent la main ! Il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis jamais pris pour un inventeur de ma vie, hélas.
Oui, peut-être que les...
Mais j'ai cette dimension, monsieur, d'abord.
Personnellement, je maintiens, je crois qu'il y a encore un malentendu. Je maintiens qu'il existe une invention. Cette invention, je l'appelle la différence par rapport au modèle. Tout inventeur est quelqu'un qui se différencie par rapport à son modèle. Celui qui ne veut pas se différencier, il fait de l'académisme. Celui qui se différencie, il fait de l'invention. Voilà. L'invention, c'est une imitation différentielle. La montre molle est une montre, là est le modèle, elle est molle, là est la différence.
J'ai dit tout à l'heure que mon intention première était de parler de l'écrivain Dali, et plus précisément du poète Dali, et plus précisément encore de Dali, poète de l'éros, poète de l'érotisme. En effet, non seulement Dali n'est pas, à mes yeux, représentatif de la peinture surréaliste, mais, on l'aura compris tout à l'heure à travers mon intervention, mais si j'avais adressé un palmarès des plus grands peintres du surréalisme, il arriverait difficilement aux alentours de la 10e ou de la 11e place. Par contre, et cela n'a jamais changé depuis le jour où je suis tombé il y a très longtemps de cela sur un très petit texte que je vais vous lire, mon admiration pour ce Dali, poète et poète de l'éros, dont, ce qui couvre une carrière très courte, puisque à mes yeux, elle s'étend de 1930 à 1932, je n'entrerai pas dans le détail. Cette admiration sans réserve est née du jour où je suis tombé sur cette petite note publiée dans le numéro 2 du surréalisme au service de la Révolution en octobre 1930. Au mois de mai dernier, sur le trajet Cambronne-Glacière, un homme d'une trentaine d'années, assis en face d'une très belle jeune fille, sépara habilement une revue qu'il semblait lire, de telle façon que ne fut vu que de la jeune fille, son sexe à découvert, en érection complète et magnifique. Un crétin s'étant rendu compte de cet acte exhibitionniste, acte qui avait plongé la jeune fille dans une énorme et délicieuse confusion, mais sans la plus faible protestation, ce fut suffisant pour que l'exhibitionniste fût frappé et expulsé par le public. Nous ne pouvons que crier toute notre indignation et tout notre mépris pour une façon aussi abominable d'agir contre un des actes les plus purs et les plus désintéressés qu'un homme soit capable de réaliser dans notre époque d'avilissement et de dégradation morale. Et je n'ai pas le temps de les citer comme j'en avais l'intention primitive. Les poèmes, il y a deux recueils essentiellement auxquels je songe, d'une part La femme visible, auquel appartient justement le grand masturbateur, et encore plus, sans doute, L'amour et la mémoire qui s'élèvent à mes yeux à un sommet à peu près indépassable de lyrisme ordurier. Avec ces deux poèmes, Dali occupe dans la poésie d'expression française des années 30 une place de premier ordre, qui le met non seulement au niveau des poètes surréalistes de la même époque, des grands poèmes écrits par les surréalistes Breton, Char, Éluard, Perret, Tzara et à la fin des années 30, Césaire, mais aussi à l'autre bout de l'horizon, si l'on peut dire, les poèmes de Pierre-Jean Jouve, également informés par la psychanalyse et par l'érotisme, les poèmes du Pierre-Jean Jouve, de sueur de sang. Et c'est, je ne peux pas entrer dans le détail pour ne pas allonger indéfiniment ce débat, ou cette apparence de débat, ou ce faux débat. Le grand masturbateur reprend le titre et le thème d'un des grands tableaux de Dali de 1929, et ce thème d'ailleurs se retrouve dans presque tous les tableaux de 1929. Il s'agit d'une figure aux yeux clos, tournée vers le bas du tableau, et figure aux yeux clos dans laquelle Dali nous invite lui-même à considérer un autoportrait. Le grand masturbateur, c'est indéniablement Dali lui-même qui, non content de se livrer au plaisir solitaire, ne songe pas une seconde à le dissimuler, mais au contraire, le clame sur les toits. Et pourquoi le clame-t-il sur les toits ? Parce qu'il s'est passé dans la vie de Dali un phénomène exceptionnel. En même temps qu'il a rencontré le surréalisme, dans le groupe surréaliste qui lui offre un auditoire exceptionnel de peintres et de, surtout peut-être de poètes de premier ordre, il a rencontré aussi celle qu'il faut bien appeler la femme de sa vie. Et cette femme, Gala, a eu l'extraordinaire intelligence, elle est aussi sans doute un impresario de génie, mais ça, ce n'est pas ça qui m'intéresse, cette femme a eu l'extrême intelligence, peut-être parce qu'elle était elle aussi amoureuse, de comprendre que le personnage extraordinaire de Dali, il lui fallait, pour le porter à ses propres dimensions, une espèce de carte blanche absolue. Il fallait qu'il se sente, qu'il se sentît approuvé à 100% dans ses travers, dans ses manies, dans son égoïsme extrêmement profond, dans tous ses petits côtés, aussi bien que dans ses grands côtés. Et je crois que d'une part, les grands tableaux, car j'admets qu'il a fait quelques grands tableaux de cette époque, et encore plus à mes yeux, les grands poèmes de l'époque 30-32 sont dus à cette espèce de formidable confiance en lui que Dali a reçue de l'amour de Gala, et qui le porte à des déclarations explosives, comme ce texte qui figure dans le catalogue officiel, cette simple phrase, et qui est de la provocation, bien sûr, comme la petite note que je vous ai lue tout à l'heure. C'est de la provocation et c'est autre chose encore. Je crois que le Dali qui a écrit ça est absolument sincère, le même qui écrit « On aime intégralement quand on est prêt à manger la merde de la femme aimée ». C'est ce Dali-là qui, à mes yeux, est le seul digne d'admiration.
Toujours j'imagine le jour qu'on dit Dali est mort. Alors c'est, évidemment, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est les gens. Mais alors ces gens, ils diront très bien, il est mort, mais il n'est pas mort comme tout le monde. Et déjà ça, ça me réjouit, le fait de ne pas être mort comme tous les autres. Et si je ne meurs pas? J'aime les mouches d'olivier, les mouches propissimes, les mouches chavillées avec des petits costumes d'alpaca, genre valencien, enfin, des mouches divines. Alors ces mouches, hypocritement, je les laisse couvrir mon visage et je sais qu'ils vont aller droit à ma perle lèche, au bord de la commissure de mes lèvres. Et ça ne rate pas. Ils font quelques circonvallations autour et finalement, je sens qu'il approche et il se met dans ma perle lèche, que c'est le produit de ma satisfaction, où j'ai cette petite croûte. Et alors là, moi, jésuitiquement, je laisse qu'il pénètre le plus que possible dans la commissure de mes lèvres. Et quand il vient dedans, alors là, je serre mes dents et la bouche fait... Et alors je la relâche. Alors il vole de nouveau et j'attends de nouveau une autre mouche. Alors je passe tout l'après-midi en emprisonnant et délivrant des mouches qui viennent s'alimenter de ma perle lèche. Ah bah Salvador Dalí, qui est votre humble serviteur. C'était quand j'étais jeune. La première chose que j'ai fait, c'est de devenir un traître. C'est-à-dire que j'ai trahi d'une façon sensationnelle ma classe d'origine, qui était la bourgeoisie. Pour me livrer corps, âme et bagage à l'aristocratie. C'est pour ça que depuis, mon attitude paraît paradoxale, parce que j'ai toujours, je suis pour l'aristocratie, je suis pour l'anarchie et je suis monarchique. Le surréalisme, c'est moi. La mort me fascine comme me fascine la prison. Parce que si une chose je haïs sur toutes les forces, c'est la liberté. Merde. Merde. Merde.
C'était Portrait débat de Salvador Dali, un documentaire du vendredi proposé par José Pierre. Première diffusion le 27 février 1981 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.